Place Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission de débat quotidienne sur l'actualité sur France Info. Bien sûr, au menu ce soir, la grève dans les services d'urgence des hôpitaux. Ce mouvement lancé il y a 5 mois ne cesse de grandir. Le collectif de grévistes recense plus de 200 services touchés en France. La ministre promet des réponses à l'automne. Il y a urgence aux urgences, on en débat dans quelques instants. Autre grève qui fait parler quand même en cette période de vacances, celle des personnels de la compagnie aérienne Transavia, filiale low cost d'Air France. Un autre mouvement est annoncé dans une semaine chez Ryanair. Est-ce que le modèle est à la croisée des chemins, surtout pour les longs courriers? On ouvrira le débat tout à l'heure. On évoquera également la rentrée universitaire et le coût de la vie pour les étudiants. Près de 3% de hausse cette année, dit le syndicat UNEF, qui pointe notamment les loyers, mais pas seulement, nous le verrons. Et puis, nous reviendrons en fin d'émission sur cette polémique lancée par les défenseurs de la cause animale après la présence à Bayonne pour assister à une corrida de deux ministres, Jacqueline Gourault et Didier Guillaume, qui est notamment chargé, le ministre de l'Agriculture, du bien-être animal. La corrida est un spectacle autorisé en France, mais les ministres ont-ils leur place dans l'enceinte? À nous, à vous, messieurs, de voir tout à l'heure. Messieurs, c'est-à-dire Étienne Girard, journaliste à Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Durand, directeur exécutif de La Marseillaise,
bonsoir.
Et Arnaud Benedetti, spécialiste de communication politique, professeur associé à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on va commencer d'abord par cette situation dans les urgences des hôpitaux. France Info consacre depuis ce matin une journée spéciale à cette grève qui touche les urgences de nombreux hôpitaux. 200 services à peu près recensés depuis 5 mois maintenant. On nous a décrit des malades qui passent des journées entières sur des brancards, des personnes qui viennent grossir les rangs parce qu'ils ne peuvent pas trouver de réponse ailleurs. Écoutez Christophe Prudhomme, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué CGT.
Moi, quand j'étais plus jeune, pendant les périodes d'été, il y avait la possibilité d'aller en renfort à Bastia, à Nice, sur la côte basque. Aujourd'hui, le nombre de lits ouverts pendant l'été dépend du personnel présent. Comme il faut que le personnel parte en vacances, eh bien, on ferme des lits pendant l'été, alors qu'il faudrait, dans certains endroits, en particulier dans les zones touristiques, augmenter le nombre de lits.
Voilà, vous avez entendu cet extrait d'interview ce matin sur France Info de Christophe Prudhomme. Ça coule de source, c'est presque du bon sens ce qu'il dit. On va dire adapter les effectifs à là où il y a du monde, notamment l'été. Étienne Girard.
Il suffit de constater deux chiffres. Le premier, c'est que la fréquentation des urgences a doublé en 20 ans. Et le deuxième chiffre, c'est que, à contrario, on a fermé 100 000 lits en 20 ans. Mmh. Donc la fréquentation augmente et le nombre de lits diminue. Et pourquoi le nombre de lits diminue, comme l'a expliqué
Christophe Prudhomme,
le monsieur qu'on vient d'écouter, parce qu'il y a un manque de personnel. Mmh. Donc on s'en sortira pas de cette crise sans répondre à cette demande qui est d'augmenter et d'avoir des recrutements de personnel dans les urgences.
C'est aussi votre avis, Frédéric Durand, la Marseillaise. Rapprochez peut-être votre micro, par contre, parce qu'il est un petit peu...
Tout à fait. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, ce qu'a dit Christophe Prudhomme. On est passé, effectivement, de 12 millions de visites de passage aux urgences avec 500 000 lits en 2000 à 21 millions en 2017 avec 100 000 lits de moins. Donc, il y a forcément un problème. Et on ira sans doute un petit peu au-delà, parce que
est-ce que c'est qu'une question de moyens? C'est aussi une question d'organisation.
C'est une question de moyens, sans doute d'organisation, mais c'est surtout, il faut le savoir, c'est que, enfin, on peut penser que s'il y a un endroit où l'État devrait pas, jouer tout son rôle, c'est bien celui de la santé. Il faut savoir que depuis 2007, depuis le modèle, le plan 2007, on est passé dans l'hôpital à ce qu'on appelle la tarification, à l'activité. C'est-à-dire que les hôpitaux, aujourd'hui, sont payés en fonction des prestations qu'ils fournissent.
Du nombre d'actes qu'ils font.
Du nombre d'actes, exactement. Alors ça, c'est pas un problème pour la clinique privée, puisqu'elle n'est pas obligée de prendre tout le monde. Mais l'hôpital public, lui, doit prendre tout le monde. Or, ce modèle-là, il est totalement destructeur. Donc je crois que au-delà, évidemment, les urgences, vous vous rendez compte qu'il y a il y a des ce qu'on appelle les infirmières de tri qui arrivent à recevoir jusqu'à 200 personnes en une journée. Donc ça devient totalement intenable. On a un personnel qui est épuisé, qui n'est pas bien payé par rapport au travail qu'il est obligé de fournir. Donc, s'il n'y a pas, la ministre a donné 70 millions en juin. 70 millions correspondaient à 100 euros de plus.
Ça faisait une prime.
Et là, on a bien vu, parce qu'on dit souvent que les gens font grève par pur égoïsme, là, on a bien vu que les 100 euros, ça n'a pas bougé, parce que le problème, il est structurel. Il ne faut pas seulement des réponses individuelles, mais des réponses structurelles et des investissements pour l'hôpital.
Arnaud Benedetti, le regard de l'universitaire que vous êtes...
Les chiffres qui ont été donnés par le de même, on voit bien qu'il y a un problème de fond. C'est un problème, en effet, à la fois de perte de lits et de doublement de gens qui se rendent aux urgences. Mais il y a un problème, un autre problème, c'est qu'on a un problème de démographie médicale. C'est-à-dire que si les gens vont aux urgences, c'est que parce qu'il y a aussi un manque de médecins. Alors, en effet, le gouvernement est en train de mettre fin au numerus clausus.
Mais le numerus clausus,
il aura des effets, la fin du numerus clausus, il aura des effets dans un certain nombre d'années. Il y a un autre sujet, c'est qu'en fait, si vous voulez, la question qu'il faut se poser, qui est à mon avis la question essentielle, est-ce qu'on peut gérer un hôpital comme une entreprise? C'est la question qui est, à mon sens, la question essentielle. Et finalement, depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a des logiques managériales et entrepreneuriales qui l'ont emporté sur, tout simplement, la logique qui est celle de l'offre de soins à peu près acceptable pour les patients. Et il y a un autre sujet qui est, à mon avis, essentiel, c'est la relation à la fois des patients à la santé et la relation aussi des médecins aux patients. C'est-à-dire qu'on a tous en nous l'image du médecin de famille un peu balzacien le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus rendez-vous avec lui et c'est beaucoup plus difficile. Et la relation aussi des patients à la santé, parce que la santé est une valeur refuge, est une valeur essentielle, les gens sont de plus en plus impatients par rapport à leurs propres besoins, fait que tout ça crée certainement aussi des tensions supplémentaires sur le système.
C'est intéressant parce que ça pose la question de qui vient aux urgences, de pourquoi on y vient, est-ce qu'on a de bonnes raisons, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans deux minutes, juste après le rappel de l'info, puisqu'il est déjà 20h10 sur France Info. On retrouve Armel Balogog.
Une disparition inquiétante dans le Nord. Un bébé de 2 mois et sa mère de 23 ans sont recherchés. La femme ne voulait pas que son enfant soit placé par les services sociaux. Elle aurait pris la fuite. Elle habite M. Elle a les cheveux roux mi-longs. Elle mesure 1m75. L'inquiétude des femmes de policiers et de gendarmes. Une quinzaine se sont rassemblées à Toulouse en fin d'après-midi. Une dizaine à Lille et à Paris. Elles dénoncent les conditions de travail de leurs conjoints. Elles craignent pour leur vie face au phénomène des suicides des forces de l'ordre. Le maire de Nancy et le président de la région Grand Est apportent leur soutien à Carole Grandjean. La permanence de la députée La République En Marche nancéenne a été dégradée. Elle est recouverte d'affiches, de tags aussi. Les gilets jaunes sont toujours là. Ils dénoncent la signature du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Donald Trump appelle l'Inde et le Pakistan au dialogue sur le Cachemire. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, se dit contre les mesures unilatérales. Les tensions montent entre les deux pays depuis la révocation de l'autonomie du Cachemire indien par New Delhi il y a une dizaine de jours. 26e vendredi de manifestation contre le régime en Algérie. Des centaines de personnes se sont massées dans les rues de la capitale. Elles demandent le départ du pouvoir de tous les proches de leur ancien président. Et du football, ce soir, Lyon accueille Angers à 20h45. C'est la deuxième journée de Ligue 1 à suivre en ce moment. 8 matchs de Ligue 2.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Étienne Girard, de Marianne, Frédéric Durand, de la Marseillaise, Arnaud Benedetti, spécialiste de communication politique à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On évoquait ce débat aux urgences et cette question finalement du réflexe que l'on peut avoir à aller aux urgences. Il y a la question de la bobologie et il y a aussi la question de la présence ou non du médecin de famille quand on a besoin. Parce que quand vous appelez aujourd'hui le secrétariat de votre médecin, vous dites j'ai la gastro et qu'on vous dit je vous propose un rendez-vous mercredi prochain, c'est un peu embêtant.
Exactement. On le disait, on donnait les chiffres.
Ça vous fait rire, mais c'est une réalité.
On donnait les chiffres tout à l'heure. On est passé en 20 ans de 12 millions de passages aux urgences à 21 millions. Les Français ne sont pas devenus d'un coup plus malade ou hypochondriaque. Y a bien l'explication des déserts médicaux, il y a bien l'éducation d'une difficulté d'accès, parce que je veux bien que les gens aient plus, soient plus soucieux de leur santé aujourd'hui qu'il y a 20 ans, on peut le croire, mais pas dans ces proportions-là. Là, on a quasiment doublé. Donc c'est bien qu'il y a un problème dans le système. Le problème est systémique.
Il est systémique, c'est quoi? Ce sont des médecins de famille qui considèrent aujourd'hui que passer 19h, avant 8h du matin, il n'y a plus de visite possible, il n'y a plus de rendez-vous le mercredi parce que ce sont des femmes, elles ont changé et qu'elles s'occupent de leurs enfants, certaines en tout cas, hein, c'est pas des clichés, mais c'est qu'on a un rapport à la profession qui est différent, à la mission peut-être par rapport à ce que c'était que le médecin de famille ou la médecin de famille il y a quelques années.
Il est clair que l'organisation du temps de médecin a considérablement évolué, c'est une donnée avec laquelle il faut compter, donc ça en effet, ça, encore une fois, ça crée de la tension sur le système, mais le problème c'est que fondamentalement quand même aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus en capacité d'accueillir l'afflux du nombre de patients dont on vient de parler. Et puis il y a un autre sujet, à mon avis, qui est essentiel, c'est que, et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est une grève qui, à mon sens, a un soutien important de l'opinion publique, parce que d'abord ça touche les personnels de santé, ce sont des personnels qui, pour la plupart, finalement, ont des salaires moyens qui ne sont loin d'être exceptionnels, il faut le rappeler, hein. Je crois que la moyenne du salaire annuel d'un personnel soignant, ça doit être à peu près 23 000 et quelques euros.
Donc ce qui est quand même,
on est vraiment dans des conditions qui sont pour le moins tendues, voire précaires. Mais la santé en France a un statut particulier. Il ne faut jamais oublier que la reconstruction du pacte républicain après la guerre, elle s'est faite aussi autour de la question de la santé, autour de la question de la sécurité sociale. Donc dans l'imaginaire politique, la santé, c'est quelque chose qui fait partie des valeurs de la République. Et donc, les Françaises et les Français, à juste titre, considèrent que la santé, c'est un service que l'État doit leur apporter dans des conditions qui sont des conditions optimales.
Je voudrais qu'on entende Étienne Gérard de Marianne là-dessus, sur ce rapport à des Français peut-être à la médecine et à ce service public.
Oui, mais ce service public, en 1945, il n'y avait pas de problème de déserts médicaux. Donc on a instauré ce principe bien compréhensible de la liberté d'installation de tout médecin. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive au bout d'un système de liberté et qui fait que
la médecine libérale doit s'interroger aussi.
Il me semble, parce qu'on a surabondance de médecins dans les grandes agglomérations, à Paris, dans les grandes villes.
Mais en même temps, c'est là aussi qu'on trouve les services des urgences. Hein, parce que quand vous habitez à la campagne, vous n'avez non seulement pas de médecin, mais en plus, si vous avez aller aux urgences, il faut faire une heure de route.
Hein. C'est exactement pour ça que les fréquentations des services des urgences doublent en 20 ans. C'est que dans les zones où on a beaucoup de services des urgences, on a aussi tous les médecins qui s'installent. Et dans les zones où les médecins ne veulent plus s'installer, on a beaucoup moins de services d'urgence. Puis une autre décision politique qui a eu des conséquences désastreuses, c'est qu'en 2000, au tournant du siècle, on a supprimé l'obligation de garde des médecins à l'hôpital. C'est-à-dire que avant, on était médecin, on devait, quoi qu'il arrive, à intervalles réguliers, faire des gardes.
Même des médecins de ville qui...
Il y avait une obligation. Les médecins libéraux, c'est fini. C'est sur la base du volontariat. Et on voit bien que sur la base du volontariat, il y a beaucoup moins... On peut aussi le comprendre. Il y a beaucoup moins de médecins qui sont candidats à ces gardes-là. Alors, quand on est médecin, on a une expertise. Alors, peut-être qu'à un moment, il faut penser à rendre ce qu'on a pu obtenir quand on a fait ces études peu onéreuses.
On charge un peu dans cette émission quand même les médecins depuis le début, mais n'y a-t-il pas aussi une question de comportement des Français, d'aller assez facilement aux urgences en se disant et d'y aller même s'ils ne devraient pas y aller? Est-ce que c'est normal de trouver dans une chaîne d'urgence peut-être des personnes âgées qui sont un petit peu fatiguées mais qui devraient être aiguillées en amont vers d'autres services?
Peut-être qu'il y a une angoisse et qu'il y a des gens qui vont aux urgences qui n'y ont pas leur place.
Oui, mais c'est ça la question. Ils n'y vont pas forcément
parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Quand on vient avec un mal de ventre aux urgences...
Et qu'on sait qu'on va y rester 12 heures...
Et quand on n'est pas pris au bout d'une heure, on est parti pour 9 ou 10 heures.
Aujourd'hui, on peut rester jusqu'à 10 heures sur un brancard, donc personne n'y va pour le plaisir.
On est d'accord.
Donc, je le disais, on peut pas croire que les Français sont tous devenus hypochondriaques.
Alors,
Alors juste... Il y a bien un problème, comme vous dites, peut-être qu'il faut... D'abord, il faut remettre des lits dans les hôpitaux, il faut remettre des lits dans les EHPAD aussi.
Est-ce qu'il faut
aussi,
pas aussi faire un parcours de santé
Tout à fait, et puis il y a des personnes, fléché, beaucoup de personnes âgées, on a éliminé tellement de lits, beaucoup de personnes âgées qui y vont parce qu'il y a des personnes fragiles qu'il faut accueillir en priorité, etc. Je crois, je le répète un petit peu, mais je crois que c'est le système en lui-même, c'est-à-dire... D'ailleurs, Macron a dit qu'il allait revenir sur la tarification à l'activité, qu'il n'y aurait plus que 50% de tarification à l'activité. J'ai souvenir très rapidement d'un reportage que j'avais fait dans un hôpital public dont je tairai le nom, où le directeur en personne...
À Marseille ?
Non, c'était pas à Marseille pour l'époque, mais où le directeur me disait lui-même, on nous demande de courir le marathon avec un boulet au pied. Ouais. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas des cliniques privées, nous, on doit prendre tout le monde. Telle est notre mission de service public. Il faut aider l'hôpital à remplir sa mission.
En préparant l'émission, je lisais tout à l'heure comment ça se passe un peu ailleurs, et j'ai découvert qu'au Danemark, on n'a pas le droit d'aller aux urgences librement. Alors, ça interroge. Il faut téléphoner d'abord, dire ce qu'on a, et après on vous aiguille, soit vers un cabinet en ville, soit vers les urgences. Mais si vous arrivez comme ça, est-ce que ça peut être peut-être ça aussi la solution ? Encore une fois, essayer de trouver des alternatives à l'entonnoir, quoi, où tout le monde va se réfugier au même endroit.
Il y a une difficulté, c'est que la plupart du temps, ce système va bien marcher, et puis il va y avoir la foi... La personne a un mal de ventre, c'est pas du tout grave, n'allez pas aux urgences.
Et on va avoir le drame qu'on a connu.
Et régulièrement, on a ce genre de faits divers. Donc, ce système-là marche pour à peu près tous les sujets sur les questions de santé.
Vous serez d'accord que c'est un sujet explosif, ce sera le sujet explosif de la rentrée.
C'est un sujet explosif parce que d'ailleurs, quand on regarde toutes les études d'opinion parmi les enjeux principaux que les Français voient dans l'agenda qui est le leur, la santé est toujours fait partie avec la sécurité ou le chômage, fait partie des items qui ressortent de manière très forte parce que tout simplement, aujourd'hui, encore une fois, le rapport à la santé a fondamentalement changé. Ça, c'est une réalité. Mais bon, il faut aussi reconnaître qu'il y a un problème aujourd'hui d'endettement des hôpitaux. Il y a eu aussi des gestions qui, sur le plan comptable, au niveau d'un certain nombre d'hôpitaux, des emprunts toxiques, on le sait très bien. Aujourd'hui, c'est quand même 30 milliards d'euros de dette des hôpitaux publics.
Et on ne peut pas faut jamais l'oublier.
On n'était pas obligé d'obliger les hôpitaux à aller emprunter sur les marchés de capitaux. Aujourd'hui, à l'époque, on arrivait à payer la santé par de la cotisation. Aujourd'hui, les soignants travaillent pour rembourser une dette. Juste un mot, parce que vraiment, je pense que le travail que font les infirmières, etc., tous les urgentistes, et il y a un épuisement, c'est ça qui va embraser, c'est qu'il y a un épuisement et qu'ils ont envie de bien faire leur travail, qu'ils se font engueuler par les gens qui arrivent angoissés, etc. On est là, dans un cercle vicieux, il va falloir vraiment sortir de ça très vite, je pense.
Eh bien, nous poursuivons le débat des informés de France Info, on va d'ailleurs changer de sujet, parce qu'on aura l'occasion, j'imagine, de reparler des urgences très prochainement. L'actualité nous rappelle l'urgence aux urgences quotidiennement. Pour l'instant, le rappel de l'info à 20h20 avec Armel Balogog.
Simon Gauthier est porté disparu depuis une semaine dans le sud de l'Italie. L'étudiant français a bien appelé les secours vendredi dernier. Il disait avoir les jambes cassées, il ne savait pas où il était et c'est toute la difficulté. Les services de secours ne peuvent pas localiser les gens dans la plupart des pays européens, déplore Jérôme Paris sur France Info. Ce n'est malheureusement pas comme à la télé, ajoute le directeur de l'ONG EENA. Il aurait fait des propositions sexuelles à une adolescente de plus de 15 ans. Un ancien entraîneur des joueuses de football lyonnaise est mis en examen, poursuivi pour atteinte sexuelle. C'est le club qui l'a signalé à la justice il y a 3 mois. Yannick Jadot dénonce un comportement lamentable. Julien Bayou lui déplore le soutien clair et net de 2 ministres à un spectacle lugubre. Les écologistes prennent part à la polémique sur la présence de 2 membres du gouvernement à une corrida à Bayonne avant-hier. Parmi eux, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture aussi, chargé de la protection animale. Une frappe aérienne russe tue 13 civils, dont 4 enfants syriens. Ils étaient dans un camp de déplacés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La situation est explosive à bord de l'Open Arms. Les mots alarmants du capitaine du navire humanitaire. 134 migrants attendent depuis 2 semaines de pouvoir débarquer. Et puis trop blessé pour jouer avec le PSG, Neymar est quand même convoqué pour les prochains matchs amicaux du Brésil. Le footballeur a donc jusqu'au mois prochain pour soigner sa cheville.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Étienne Girard, journaliste à Marianne, Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise, Arnaud Benedetti, professeur associé à Paris-Sorbonne, spécialiste de communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On va évoquer maintenant ce qui est peut-être une petite angoisse pour... alors ils sont certainement pas nombreux puisque la compagnie Transavia annonce 95% des vols assurés, mais enfin les 5% qui ne seront pas assurés, ça fait quand même quelques angoisses pour ces vacanciers qui se demandent s'ils vont pouvoir rentrer de vacances et reprendre le travail lundi car ils ont des billets dans cette compagnie. Il y a un malaise, clairement, des hôtesses et des stewards de Transavia qui sont en grève et qui ont choisi ce week-end pour marquer le coup. La semaine prochaine, on nous annonce aussi un mouvement chez Ryanair. C'est peut-être ces contestations qui fleurissent comme ça dans ces compagnies low cost, le début d'une prise de conscience peut-être que pour faire voler des avions pas chers, il faut faire des sacrifices un peu trop lourds. Étienne Girard.
Je crois pas qu'il y ait de prise de conscience, hein. Je m'en félicite pas, mais quand on regarde les chiffres de fréquentation des vols des compagnies Ryanair par exemple, les chiffres ils sont en constante augmentation. Donc il y a un appétit du consommateur pour les offres de ces compagnies-là. J'ai l'impression que le consommateur, il ne regarde pas quelles sont les conditions sociales qui se pratiquent à Transavia, à EasyJet, chez Ryanair.
Mais grosso modo, nous les premiers. Enfin, je veux dire, à un moment, quand on achète quelque chose, on va prendre le moins cher. C'est là, on a appris à voyager pas cher depuis 10-15 ans. Prendre l'avion pas cher...
C'est toute la difficulté. Et le problème, c'est que le business model d'une compagnie comme Ryanair, il a intégré cette donnée-là, cette donnée que ce qui était important, c'était d'avoir des tarifs agressifs, d'attirer le client. Et après, le conflit social, puisqu'il faut, pour proposer des tarifs attractifs, il faut réduire les coûts par ailleurs.
Bien sûr.
Donc, Ryanair et Transavia, ces compagnies low cost, ils intègrent la précarisation, le management par le stress, un turnover important dans leurs équipes, ils l'intègrent dans leur business model.
Et ça les dérange pas tant que ça. Transavia, qui est quand même une filiale d'Air France, sur laquelle il y a encore une discussion, j'imagine, en tout cas un poids de syndical et des instances du personnel. Frédéric Durand, vous êtes d'accord avec nous? C'est le problème, c'est que on va se dire, c'est terrible. On peut les comprendre, et puis on veut aussi beaucoup de sécurité quand on monte dans un avion, bien sûr. Et en même temps, si on peut payer 29 euros pour aller pour faire une diagonale, par exemple, Nantes-Lyon, on va la faire.
À la question, est-ce qu'on est au bout du modèle low cost? Moi, je crois qu'on est, si on n'est pas au bout, on n'est pas loin du bout. D'abord parce qu'on a les aéroports qui sont saturés. Ensuite, parce qu'on a maintenant une sensibilisation beaucoup plus forte aux contraintes environnementales. Je rappelle que l'avion est le transport qui pollue le plus. Donc autant, évidemment, vous pouvez pas aller dans un pays à 10 000 km autrement qu'en avion. Vous pouvez pas y aller à la rame. Mais par contre, faire Paris-Lyon, il faudrait, moi je pense, justement pour arrêter la course effrénée au moins cher. Vous avez vu que là, d'ailleurs, il y a une taxe qui va être appliquée, apparemment, de 1,5 euros à 18 euros sur les vols, une éco-taxe qui va semble vouloir être mise en place. Donc je crois que oui, on est un petit peu au bout d'un modèle.
Je suis d'accord sur votre exemple Paris-Lyon ou Paris-Marseille, puisque vous travaillez à Marseille. Mais lorsque vous habitez, par exemple, à Lyon... Non, mais bien sûr, parce que pour venir à Paris, tout est centralisé vers Paris. Mais si vous habitez à Lyon d'accord. et que vous voulez aller à Bordeaux...
Si vous dites ça, je vois ce que vous voulez dire.
C'est beaucoup plus compliqué. Non, si vous habitez à Nice, vous avez un rendez-vous à Brest...
Je vois ce que vous voulez dire, mais en plus, je regrette très fortement que qu'on élimine les unes après les autres les lignes de chemin de fer. Parce que moi, je crois que la solution, notamment à la crise environnementale, la solution pour ne pas être justement des jusqu'au-boutistes dans le domaine de l'aviation, etc., c'est de réouvrir des lignes ferroviaire pour le fret et pour le transport voyageurs.
Arnaud Benedetti.
Oui, enfin, le succès du low cost, il répond à une demande. Mmh. Et la demande, elle est portée par aussi une activité qui est essentielle, c'est le développement touristique. C'est quand même le tourisme de masse, si vous voulez, qui est
si
aussi
on sort des lignes
d'une certaine manière.
Effectivement,
des lignes intérieures,
vous êtes bien d'accord. On a démocratisé les voyages en République dominicaine, à Cuba, ou je ne sais où.
Exactement. Mmh. Donc, on est face, si vous voulez, d'un côté, un succès économique, évident, et de l'autre côté, un désastre social. Vous avez deux postes sur lesquels rognent en particulier les compagnies de low cost, c'est le personnel et la qualité du service. Et se pose aussi une autre question, au-delà de la question environnementale, c'est la question de la sécurité du transport aérien. Parce que à un moment donné, quand vous rognez sur le personnel, et même quand vous rognez sur la qualité du service, inévitablement, la question de la sécurité peut se poser. Mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, cette offre de transport constitue un succès économique qui est dopé par une demande, tout simplement, du consommateur.
Et puis maintenant qu'on y a pris goût, excusez-moi, mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? C'est-à-dire que c'est comme si on nous disait aujourd'hui, les smartphones, c'est dangereux, on vous les enlève. On a pris goût à pouvoir sauter dans un avion pour pas cher, alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, seul ceux qui étaient riches pouvaient prendre l'avion. Enfin, je grossis un peu, mais...
Oui, c'est d'ailleurs le même problème, je digresse, mais pour la presse, puisqu'on a pris goût à l'information gratuite. Aujourd'hui, on se rend compte que l'information gratuite, c'est pas forcément une information de qualité, mais on sait pas comment convaincre les gens qui ont eu accès à une information gratuite de payer. Alors, il semble que au niveau de l'information, il y a une prise de conscience et que... il y a des gens qui s'abonnent d'eux-mêmes et qui préfèrent payer pour avoir accès à un service de qualité. Alors, est-ce qu'on va y venir de la même façon pour les compagnies aériennes ? C'est le pari qu'on peut faire. On peut faire le pari qu'il y aura à un moment des grands incidents avec de fortes conséquences dans les compagnies low cost.
On ne va pas le souhaiter, bien sûr, mais on peut le craindre, le redouter.
Des incidents qui n'ont pas d'incidence sur la vie de gens.
Ah, pas ça des crashs d'avion, donc.
Ça peut être simplement des dysfonctionnements, mais des dysfonctionnements tels qu'ils font que ce service n'est plus attractif et que le client préfère payer peut-être 20 euros, 50 euros de plus pour avoir accès à un service de qualité. Force est de constater, quand on regarde les chiffres de fréquentation, on n'y est pas du tout aujourd'hui.
Faisons quand même la part des choses entre celui qui va voyager une fois par an, prendre l'avion pour partir en vacances, et celui qui va prendre tous les 15 jours l'avion en business class. Je pense qu'il y a aussi ça à regarder. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas combien de fois vous prenez l'avion par an. Moi, je ne le prends pas très souvent.
Je vous rassure.
Donc, je pense que le français moyen, le français en plus un peu provincial, etc., le français qui n'est pas le français de la métropole, il le prend une fois par an, il ne va pas culpabiliser de le prendre une fois par
encore
an.
Une fois, oui, sauf une fois, s'il habite d'un côté de la France et qu'il a sa famille à l'autre moitié. C'est aussi une réalité parce que malheureusement, les infrastructures de transport terrestre ne sont peut-être pas à la hauteur. Enfin, on en a fini avec ce débat. On se retrouve pour la suite des informés juste après les infos et la météo.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Avec Elodie Calac, Météo France.
Pluie au nord et soleil au sud demain sur la moitié sud, un temps très ensoleillé. Des nuages maritimes viendront quand même contrarier le soleil sur les côtes de l'Aude au Var. Il fera 14 à 21 degrés le matin, l'après-midi 27 degrés à Biarritz et Montpellier, 33 à Lyon, à Montauban, 35 à Montélimar. Au nord, un ciel gris avec des pluies au programme parfois soutenues. On pourra espérer quelques éclaircies sur les régions voisines de la Manche et juste quelques pluies éparses. Vous aurez 13 à 17 degrés le matin, l'après-midi 19 degrés à Brest, 22 à Paris, Nantes, Nancy, 26 à Mulhouse et à Nevers. Dimanche, ce sera agité avec encore de la pluie au nord et ça tournera à l'orage du sud-ouest vers le Massif central, le Jura et les Alpes.
Merci beaucoup Elodie Calac. Belle soirée avec France Info. Il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
C'est le retour de Thomas Bénèche.
Une migrante portée disparue depuis une semaine maintenant. Vendredi dernier, elle tombe dans la mer alors qu'elle traverse la Manche afin de gagner l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Deux personnes à ses côtés ont pu être repêchées. Selon des chiffres publiés aujourd'hui par la préfecture maritime, depuis le début de l'année, 1276 réfugiés ont été secourus dans la Manche, Bastien Munch.
1276, c'est deux fois plus que le nombre de migrants secourus dans la Manche sur la totalité de l'année dernière. Une augmentation liée aux conditions de vie qui continuent de se dégrader dans les camps, selon Charlotte Quantes. Elle travaille pour l'association Utopia 56 à Calais.
Ils vivent dans des tentes, elles sont fournies au gré des donations que les associations reçoivent. Il se trouve qu'en ce moment, on n'a plus de tentes, par exemple, à donner. Il n'y a tellement rien qui les retient. Ils sont tellement menacés constamment, soit d'expulsion, soit d'arrestation. Évidemment qu'ils vont prendre des risques pour partir. Évidemment.
Alors pour éviter que les migrants continuent de se mettre en danger, l'association Utopia 56 réclame un couloir humanitaire entre la France et le Royaume-Uni, autrement dit un meilleur accueil des migrants et surtout leur transfert légal de l'autre côté de la Manche. Face à cette augmentation des traversées, la sous-préfecture de Calais, quant à elle, ne compte pas faire évoluer son dispositif de sécurité. Michel Tournaire est le sous-préfet de Calais.
Nous avons déjà depuis la fin de l'année dernière des patrouilles toutes les nuits sur le terrain. Il y a des découvertes de bateaux d'eau, de gilets de sauvetage, voire même des arrestations de passeurs.
Une campagne de sensibilisation a également été menée auprès des loueurs de bateaux pour qu'ils soient plus vigilants et signalent toute vente ou location de bateaux suspects.
Un reportage signé Bastien Munch pour France Info. Une trentaine de parents de la vallée de l'Orbiel dans l'Aude, rassemblés aujourd'hui devant l'hôpital de Carcassonne, ils demandent de nouveaux dépistages pour leurs enfants. 38 d'entre eux présentent des taux d'arsenic supérieurs à la moyenne, c'est ce qu'annonçait mardi l'Agence régionale de santé d'Occitanie. L'ancienne mine d'or de Salsigne, fermée depuis 2004, est montrée du doigt dans cette affaire. Une femme placée en garde à vue pour dénonciation mensongère. Hier soir, elle appelle à l'aéroport de Paris et affirme que son frère risque de commettre une attaque. Il est interpellé à l'aéroport d'Orly où il a passé les contrôles de sécurité. Il s'apprête à prendre alors un avion pour Barcelone. Il a sur lui une petite lame métallique qu'il dit avoir oublié de poser. L'auteur du coup de téléphone est en fait la petite amie du suspect. Tous deux s'étaient disputés. On apprend à l'instant qu'ils seront jugés pour tous ces faits lundi. 26e vendredi de manifestation en Algérie. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sont une nouvelle fois descendus dans la rue dans plusieurs villes du pays. Leur revendication est toujours la même. Ils demandent le départ de tous les hommes liés au clan Bouteflika du nom de l'ancien chef de l'État poussé à la démission par la rue. 13 civils dont 4 enfants tués aujourd'hui dans une frappe aérienne en Syrie. Cette frappe russe a touché un camp de déplacés situé dans le sud de la province d'Idlib, région où se trouvent des djihadistes. Enfin, dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant débute la deuxième journée du championnat de Ligue 1 de football. Au programme Lyon-Angers, 20h33 sur France Info, l'heure de retrouver la suite des informés.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir, Étienne Girard, journaliste à Marianne, Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise, et Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à Paris-Sorbonne. Un chiffre s'est invité dans l'actualité de ce vendredi, 2,83%. C'est la hausse du coût de la rentrée universitaire, selon une enquête publiée par le syndicat étudiant UNEF. C'est quand même deux fois plus que l'inflation, plus de deux fois plus que l'inflation. Et ça se marque principalement sur les loyers, nous expliquait sur France Info tout à l'heure Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
Le loyer, c'est le premier poste de dépense des étudiants et cette année, on a une augmentation de 2,97% du prix des loyers. Il y a des villes qui atteignent des records comme à Bordeaux où on a une augmentation de 11% du prix des loyers. On a aussi Évry, 7%, ou même Paris où il y a plus de 5% d'augmentation du prix des loyers. Vous avez une vraie différence entre un loyer à Paris où on arrive en moyenne à 873 € avec un loyer au Mans, par exemple, où on est à 340 €. Une vraie différence.
Nous avons donc des étudiants qui s'appauvrissent beaucoup plus vite que la moyenne et c'est quand même un vrai souci. Je me tourne vers vous, Arnaud Benedetti, puisque les étudiants vous en croisez au quotidien. C'est votre métier de prof à la Sorbonne.
Je crois qu'il y a un étudiant sur deux qui, à ce stade, n'a toujours pas trouvé de logement, alors qu'on est à la veille de la rentrée universitaire. Donc ça en dit long sur, en effet, la précarisation de la condition étudiante. Enfin, c'est un peu d'histoire, juste un peu d'histoire. Oui. En 1968, c'était exactement la même chose. Il y avait eu un petit manifeste qui était sorti qui s'appelait « De la misère en milieu étudiant ». Donc déjà, il y avait la question des conditions de vie des étudiants qui étaient posées. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'entre-temps, l'université s'est encore plus démocratisée qu'en 1968, que nous avons un afflux d'étudiants qui est de plus en plus important, et que, en l'occurrence, je veux dire, on n'est pas capable d'assurer vraisemblablement des conditions de rentrée tout à fait satisfaisantes aux étudiants. Et il y a derrière cela, évidemment, aussi, bien évidemment, un risque politique très important. Parce que la cause étudiante a toujours été une cause politique extrêmement difficile pour tous les gouvernements et pour tous les pouvoirs publics. Donc on est là face à un sujet qui est potentiellement, je dis bien potentiellement et pas sûrement, inflammable, mais on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, la réponse qui est apportée par les pouvoirs publics est vraisemblablement insuffisante. Et puis il faut ne pas oublier qu'au tout début du mandat d'Emmanuel Macron, la baisse des APL avait été l'un des premiers éléments de crispation d'une partie de l'opinion publique
par rapport au
mandat d'Emmanuel Macron.
On était à 5 euros par mois et on voyait bien comment ça crispait. Là, on a des chiffres d'augmentation de loyer qui sont vertigineux, qui défient toute rationalité. En clair, il y a des gens qui se font du business, qui ont la chance de posséder des petits appartements dans des villes où il y a beaucoup d'étudiants et
C'est ça. Et puis, regardons évidemment le loyer est une part importante des dépenses de l'étudiant. Juste pour recontextualiser, l'éducation, les études, c'est un facteur d'égalité. dans notre pays. C'est le moteur d'égalité dans notre pays. Quel est le message qui est envoyé aux familles populaires? Quel est le message décourageant qui est envoyé avant même que leurs enfants arrivent en âge? Déjà, ils se disent, mais c'est très cher les études. Mes enfants ne pourront pas faire d'études. Et donc là, il y a un recul important. Même si on a massifié les études, aujourd'hui, on va vers quelque chose qui décourage, et notamment la question des classes populaires. Il y avait une étude de 2007 de la Croix-Rouge qui était étonnante, qui disait que 48% aujourd'hui des jeunes étudiants renonçaient aux soins faute d'argent. Ouais. Que 13 000 étudiants à Paris se privaient de 4 à 6 repas par semaine.
C'est une étude qui remonte à quand,
Olivier ? C'est une étude 2007 de la Croix-Rouge. Donc, vous imaginez, c'est tout récent, vous imaginez les conditions de précarité accélérées, et d'une part des étudiants, et puis aussi les barrières à l'entrée des études que ça constitue pour les familles populaires.
En 2017, j'avais entendu 2007, c'est pour ça que je vous demandais de
2017, ce
que je m'étais dit.
Ah, mais on a même des chiffres beaucoup plus récents, puisqu'à Marianne, on a réalisé un sondage en juin dernier. 68% des étudiants sautent des repas pour des raisons économiques. Donc, on a une condition étudiante qui va en se dégradant. Et on a un dédain du gouvernement qui est assez étonnant sur cette question. Rien que sur la question des APL. Les APL, depuis 2017, alors il y a une baisse. Et désormais, elles sont gelées. Elles ne sont même pas réindexées sur l'inflation. À l'inverse des loyers. C'est-à-dire qu'une fois par an, le propriétaire peut augmenter son loyer sur la base de l'inflation. Mais les APL, elles, n'augmentent pas. Donc, mécaniquement, il suffit juste là de le constater, de l'observer. On a une paupérisation de l'étudiant, du locataire en général,
et l'étudiant
et ici,
qui...
de l'étudiant.
L'étudiant qui devient pauvre, c'est l'étudiant qui mange mal, c'est l'étudiant qui travaille à côté et qui a moins de temps pour travailler.
C'est celui qui vient, je le répète, mais celui qui vient des milieux où les parents peuvent le moins aider, qui va être le plus pénalisé, parce qu'il va falloir trouver un petit boulot à côté, parce qu'on va pas bien se nourrir, etc. Donc, on crée une barrière, une inégalité de l'accès aux études. Et je pense que c'est effectivement extrêmement important d'y remédier.
Arnaud Benedetti.
Oui, sauf que finalement la chance du gouvernement dans cette affaire, si je puis dire, c'est que les logiques d'action collective qui étaient celles des étudiants dans les années 60 ou 70 se sont considérablement infléchies. Et finalement, les étudiants aujourd'hui, pour la plus grande masse, essayent de se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas une conscience véritable sociale aujourd'hui collective des étudiants.
Du statut de l'étudiant ou de la condition de vie de l'étudiant.
Bah, c'est-à-dire que l'étudiant aujourd'hui se débrouille. C'est le système D qui, finalement, fait office de solution à ces problèmes. Et donc, d'une certaine manière, et non sans cynisme, le gouvernement a pris acte de cette faiblesse de la conscience sociale aujourd'hui en milieu étudiant et se permet vraisemblablement des stratégies d'évitement d'une crise potentielle.
La mobilisation des campus, elle vient porter sur des réformes d'enseignement, elle va porter sur le contenu de ce qu'ils apprennent et pas forcément sur leurs conditions de vie.
Non, mais elle peut porter sur les conditions de vie, mais ce qu'on observe depuis quelques années, et ça s'est accentué depuis le 2017, une déroute du syndicalisme étudiant qui a de plus en plus de mal à diriger un mouvement social d'ampleur. On a des actions désordonnées, mais on a de plus en plus de mal à faire ressurgir cette conscience collective étudiante. Et évidemment, je suis d'accord avec Arnaud Benedetti, le gouvernement compte là-dessus.
Je vous propose, parce que je vois que vous avez encore beaucoup de choses à me dire sur ce sujet, d'en reparler juste après le rappel de l'info. 20h40, Armel Balogog.
Des masques blancs avec des larmes de sang, les symboles arborés par une dizaine de manifestantes devant le ministère de l'Intérieur à Paris. Elles sont femmes de force de l'ordre, elles dénoncent les conditions de travail de leurs conjoints, des rassemblements aussi à Lille et à Toulouse. Nora Coirin doit être enterrée parmi les siens. Ses parents demandent le rapatriement de son corps à Londres. La jeune franco-irlandaise a été retrouvée morte en Malaisie. Elle serait morte d'une hémorragie des intestins selon une autopsie. Elle se serait due à la faim et au stress. Alors que 200 services d'urgence sont en grève, une information qui vient alimenter les revendications. Un patient de 70 ans est resté 6 jours et 12 heures dans l'unité d'urgence de l'hôpital de Saint-Quentin dans l'Aisne. Le collectif Interurgence dénonce un record, signe des sous-effectifs. La direction de l'hôpital, elle, invoque une décision médicale. Des milliers de manifestants ont participé à une veillée nocturne à Hong Kong. Ils appellent les pays étrangers à adopter des sanctions contre le gouvernement pro-Pékin. Les militants pro-démocratie sont mobilisés depuis 3 mois dans le territoire semi-autonome. L'Inde dénonce les ingérences étrangères sur le Cachemire. Nous n'avons pas besoin que les fouineurs internationaux viennent nous dire comment agir. Déclaration de l'ambassadeur indien aux Nations Unies, New Delhi a révoqué l'autonomie d'une partie de ce territoire il y a une dizaine de jours. Décision vivement critiquée par le Pakistan. Donald Trump demande aux deux pays de dialoguer. Et puis dans 5 minutes, le deuxième jour de la journée de la deuxième journée de Ligue 1, je vais y arriver, commence un match à suivre ce soir. Les footballeurs lyonnais accueillent les Angevins.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Arnaud Benedetti, spécialiste de communication politique, professeur associé à la Sorbonne, Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise, et Étienne Gérard, journaliste à Marianne. Avant les infos, on évoquait les conditions de vie des étudiants, cette précarisation qui augmente, le coût de la vie qui augmente de 2,83% et le syndicalisme étudiant, vous nous disiez, qui est en faillite pour mener une révolte et une fronde. Et vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, moi simplement, pour ne pas donner Frédéric le sentiment Durand. Que l'individualisme ne traverserait que ce groupe social des étudiants. Évidemment que l'individualisme traverse toute la société, que les étudiants ne sont pas épargnés et que la difficulté à mener des combats collectifs se retrouve dans le milieu étudiant comme elle se retrouve effectivement dans tous les milieux en France et au-delà. Donc voilà, c'est pas l'apanage, malheureusement, pas l'apanage des seuls étudiants que d'avoir du mal aujourd'hui à faire corps et à se battre ensemble pour leurs conditions sociales.
En face, que répondent selon vous les présidents d'université? Hier, on avait la publication du classement du palmarès Shanghai, dont on a l'impression que c'est le Graal, en tout cas, même s'il est contesté par certains, c'est le Graal des présidents des universités, vont remonter dans ce classement. Est-ce que finalement, il n'y a pas une différence entre le prestige de publier dans Nature, dans Science, des revues pour être bien classé et avoir...
Oui, mais ce sont deux choses totalement différentes. Si vous voulez, là, vous êtes en train de parler de recherche et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire du contenu de l'offre pédagogique et aussi de la qualité du système. Mais le classement ne prend pas du tout en compte les critères sociaux.
C'est bien ça qui est dommage.
C'est bien le problème. Mais de toute façon, le classement, d'ailleurs, il est même contestable. Parce que finalement, quand on voit le rang des universités françaises est assez loin des grandes universités anglo-saxonnes, voire de certaines universités asiatiques. Il faudrait d'ailleurs prendre en compte, pour avoir un classement qui soit véritablement, j'allais dire, panoramique, les grands organismes de recherche publique qui produisent beaucoup de recherches, beaucoup de papiers. Et on voit bien qu'ils ne sont pas pris en compte. Donc tout ça est très contestable. Mais encore une fois, les critères sociaux sont totalement absent du classement de Shanghai. Donc le classement de Shanghai est tout sauf un bon évaluateur, si je puis dire, de la condition sociale et des conditions de vie des étudiants. Mais ce qui est quand même très inquiétant dans le sujet dont nous sommes en train de parler, c'est qu'on voit bien que sur des besoins élémentaires qui sont se nourrir et se soigner, un certain nombre d'étudiants aujourd'hui s'efforcent de faire des économies pour pouvoir tout simplement poursuivre leurs études.
Et vous le... Excusez-moi, mais puisque vous êtes universitaire, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la réussite universitaire et le fait de devoir travailler à côté? C'est-à-dire, est-ce que les étudiants qui ont 100% de leur temps pour leurs études réussissent mieux que ceux qui sont obligés d'aller à McDo?
Il est évident que ceux qui se consacrent de manière totale à leurs études, sans avoir à rechercher des moyens de subsistance pour les payer, travaillent dans des conditions qui sont en plus favorables. C'est, je crois, une évidence.
Étienne Gérard, Marianne, sur ce sujet de du climat social et des conditions de vie des étudiants.
Non mais ça c'est une évidence pour qui a été étudiant, qu'il est beaucoup plus aisé d'étudier quand on peut s'y consacrer à 100% que quand on est obligé de faire un petit boulot à la fin de la journée. Mais alors si on veut politiser un peu le sujet, d'ailleurs c'est tout à fait étonnant que le gouvernement ne se saisisse pas de cette question. Moi j'ai lu le bouquin programmatique sur La République en marche d'Ismaël Emelien et
conseiller
et David Amiel, ex-conseiller d'Emmanuel Macron. Ils se sont donné comme mission de théoriser ce qu'est le macronisme. Alors le macronisme, selon eux, c'était on ne vise pas l'égalité, on vise l'équité, c'est-à-dire donner les mêmes chances à chacun de réussir dans la vie. On sait que tout le monde réussira pas de la même façon, et ça nous va très bien, mais on veut donner à chacun les mêmes chances de base. Et là, c'est bien la preuve qu'on n'y est pas du tout, parce que l'augmentation du coût de la vie pour les étudiants dans leur globalité, ça montre bien que on n'a pas pris en compte le fait que il y a des inégalités énormes entre étudiants Et ça, c'est pas du tout.
Alors, il y a des
inégalités, pris en compte, notamment dans les frais d'inscription.
Qui apparaissent aussi, qui sont pointés
sauf
par
pour les
l'UNEF,
étudiants boursiers.
Entre
mais
les...
il y en a de moins en moins.
Alors, il y a de moins en moins. D'ailleurs, l'UNEF demande une réforme des conditions d'attribution des bourses. Il y a une différence qui est pointée par l'UNEF cette année. Et 530 euros d'écart sur une année, quand même, ce qui n'est pas rien. 50 euros par mois. Entre les garçons et les filles. Simplement parce qu'il y a, évidemment, pour les filles, les frais liés au fait de devoir s'acheter des protections périodiques, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Et donc, on pointe maintenant la précarité menstruelle. C'est quand même un sujet qu'on aurait pu imaginer, enfin, qui ne devrait pas exister. Enfin, on ne devrait même pas avoir à poser ce genre de questions. Frédéric Durand.
L'inégalité, de toute façon, en France, touche, quand elle touche un groupe, elle touche toujours plus les femmes dans ce groupe les hommes. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a encore une inégalité dans l'inégalité. Pour revenir deux secondes, vous parliez de Shanghai tout à l'heure. Non seulement, c'est pas un bon évaluateur, mais c'est néfaste. C'est néfaste parce que ça fait accorder des moyens supplémentaires aux écoles d'excellence en laissant de côté, justement, celles qui auraient le plus de besoins de moyens.
Une concentration sur des grandes villes et des universités. Donc ceux qui vont à la fac pas très très loin de chez eux dans des régions.
On a démocratisé globalement l'éducation, mais on est en train de lâcher parce que la question de l'égalité qu'on transforme en question d'égalité des chances. Je sais plus qui disait là où il y a d'égalité, il y a pas besoin de chance, et là où il y a de la chance, il y a pas d'égalité. Donc on transforme en égalité des chances et puis ensuite on transforme en équité. Mais donner les mêmes chances à chacun supposerait un effort bien au-delà de celui qui est fait aujourd'hui, sauf à entériner l'idée d'une reproduction des élites qu'on connaît bien.
Alors justement, puisqu'on parle du coût de la rentrée universitaire, on a aussi aujourd'hui le coût de la rentrée scolaire qui stagne en moyenne par rapport à l'année dernière, mais on pointe des écarts considérables avec l'allocation de rentrée scolaire il y a 35 euros d'écart en gros que vous ayez un enfant qui rentre en primaire, au collège ou en lycée. Or, au collège, ça coûte beaucoup plus cher parce que les enfants sont en pleine croissance, il faut acheter plus souvent des habits, des vêtements, des affaires de sport, etc. etc. Et les syndicats demandent, la Confédération des familles aussi demande qu'il y ait peut-être une allocation qui soit plus modulable selon les générations. Ce serait une bonne idée, selon vous, ça ?
Sans doute, mais
Étienne Gérard.
Depuis tout à l'heure, on parle du manque de moyens. On a parlé du manque de moyens aux urgences, il y a besoin de plus de moyens. On a parlé du manque de moyens pour les étudiants, il y a besoin de plus de moyens. Vérité, c'est que on est dans
les gens qui travaillent dans les avions aussi, les compagnies de côte.
Alors c'est différent parce que là on est dans le secteur privé. Non mais le sujet aussi en filigrane de tout ça, c'est les politiques d'austérité et l'idée que on n'a pas assez d'argent pour finir le budget, donc il faut rogner partout. On a promis qu'on n'augmenterait pas les impôts et donc il faut rogner partout sur la dépense publique et il se trouve qu'on n'a plus beaucoup d'argent à donner aux hôpitaux,
à la fac, à l'éducation et dans les hôpitaux.
On s'en rend pas compte parce que c'est une austérité à bas bruit, mais sur tout un tas de postes de dépenses, l'État ne fait plus autant que ce qu'il a fait. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, peut-être, que les politiques d'austérité, ça a des conséquences sur la santé, sur les temps d'attente aux urgences et sur les conditions à l'université.
Promis, je vous redonnerai la parole juste après le rappel de l'info pour qu'on conclue sur ce sujet et qu'on aborde notre dernier thème. Pour l'instant, il est 20h50 et c'est Armel Balogog.
L'ONG qui gère l'Open Arms demande un débarquement pour urgence humanitaire. 134 migrants attendent depuis 2 semaines de toucher terre. 6 pays européens ont trouvé un accord pour les accueillir hier, mais le navire humanitaire est arrêté en mer à quelques centaines de mètres du port de l'île de Lampedusa. Et le ministre de l'Intérieur italien refuse de le laisser accoster. Une sexagénaire est morte ce matin à l'hôpital de Poitiers. Elle a succombé à ses blessures. Lundi, elle a été agressée à la machette à Saint-Cybardeau en Charente. La principale suspecte a 27 ans, elle a été arrêtée mais elle nie les faits. Une information judiciaire pour homicide et tentative d'homicide sera ouverte demain. La police de Roubaix à la recherche d'une femme de 23 ans et d'un bébé de 2 mois. L'enfant allait être placé par les services sociaux, sa mère le refuse, elle aurait donc pris la fuite. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis une semaine, la famille habite à M, la femme est rousse, elle mesure 1m75. Le bilan augmente en Syrie après des frappes aériennes du régime et de son allié russe. 15 civils sont morts, dont 6 enfants. Les raids ont notamment touché un camp de déplacés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des billes, des filaments, du nylon, des quantités folles de microplastiques retrouvés dans un morceau de banquise prélevé dans l'Arctique. C'est la découverte choquante d'une équipe de scientifiques. Voir toute cette pollution dans l'immensité blanche est pour eux un véritable coup de poing dans le ventre.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir, Étienne Gérard, journaliste à Marianne, Arnaud Benedetti, professeur à Paris-Sorbonne, spécialiste de communication politique, et Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise. Vous vouliez rajouter quelque chose quand on évoquait ces finances publiques sur lesquelles on rentre dans tous les secteurs, voilà, même les plus...
Je voulais rebondir parce que effectivement, ce qui a été dit était très juste. C'est-à-dire que Macron a fait des choix. Je donne juste rapidement quelques chiffres pour qu'on comprenne quels étaient les choix, puisque c'est Macron qui a fabriqué le CICE pour Hollande à l'époque. Mmh. C'est Macron qui l'a fait perdurer, c'est-à-dire la défiscalisation
pour les entreprises,
etc. Ça nous coûte 20 milliards par an.
C'est censé créer des emplois. Hein.
Ça a créé 100 000 emplois depuis 2013. Et ça coûte 20 milliards par an. 20 milliards, vous m'entendez? Donc, il faut bien comprendre que ce sont des choix, le choix qu'on appelait choix de l'offre, etc. Mais ce sont des choix très clairs qui ont été faits en disant on baisse, on se prive de 20 milliards d'euros au profit des entreprises pour faire redémarrer la machine. Mais depuis 2013, la machine n'a pas trop redémarré en termes d'emploi, en tout cas.
Ce sont des politiques publiques qui sont dictées, finalement, Macron a sa part de responsabilité, mais c'est des politiques publiques qui sont dictées depuis 30 ans par une politique européenne qui est basée principalement sur le traité de Maastricht, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter, de maîtrise des dépenses publiques, et qui aujourd'hui impactent l'ensemble des politiques publiques. Ce qui avait été dit par les opposants au traité de Maastricht en 1992, aujourd'hui, finalement, se révèle d'une certaine manière, de manière très concrètes dans toutes les politiques publiques qui sont conduites.
Mais et à la fois, les économies les plus puissantes du monde, Japon, États-Unis, etc., ont des dettes publiques qui sont
colossales.
Donc on voit bien qu'eux ne se gênent pas pour agir sur la Fed aux États-Unis, quand nous, on veut laisser toute latitude à la BCE, etc. Donc après, il faut savoir si on veut contenter les marchés financiers si on veut contenter les peuples d'Europe. Et j'ajoute qu'une des grosses parts de ce qu'on appelle le populisme en Europe aujourd'hui, en Italie, etc., dans beaucoup de pays, est liée tout simplement à, effectivement, ces fameux critères européens qui corsettent complètement la possibilité d'une relance publique.
Et qui font que les populations se sentent étouffées
et qui ne croient plus aux politiques plus
extrêmes ou enfin qu'on pourrait qualifier de plus radicales. On va terminer peut-être plus légèrement, enfin légèrement encore que ça a fait de gros sujets de débat avec la présence de deux ministres à la corrida de Bayonne il y a deux jours. Jacqueline Gourault, cohésion des territoires, Didier Guillaume, agriculture, dont on découvre à cette occasion que dans le ministère de l'agriculture, il y a la cause animale. C'est intéressant de le savoir quand même. Et donc, il fallait pas qu'ils y aillent parce que visiblement, les défenseurs de la nature crient au scandale. Arnaud Benedetti.
Il y a deux sujets. Il y a d'abord le sujet, c'est qu'aujourd'hui, finalement, tout devient très vite polémique. Parce qu'il y a une hyper-visibilité qui fait que toute présence d'un homme public dans un lieu finit par être interprétée, mal interprétée, déformée. Donc ça fait partie du fonctionnement du système. Ensuite, il y a l'autre sujet. L'autre sujet, c'est aujourd'hui, il existe une partie de l'opinion publique qui est de plus en plus sensible, de toute façon, à la cause animale. Ça devient un sujet politique, ce qui ne l'était pas il y a récemment une vingtaine ou une trentaine d'années. Je prendrai un autre exemple, qui est lui d'ailleurs beaucoup plus préoccupant que la corrida, c'est par exemple, ceux qui sont aujourd'hui des opposants à l'expérimentation animale, considérant qu'il faut cesser toute forme d'expérimentation animale en Europe. Donc, on voit bien que ce sujet est un sujet qui monte en puissance, celui de la cause animale. Et moi, je parierais quand même qu'à terme, malgré tout, la corrida est un spectacle en danger, même si c'est une tradition, même si économiquement,
ça c'est intéressant.
Même si économiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est très important aussi, c'est que c'est une activité économique. C'est-à-dire que pour un certain nombre de collectivités, vous allez à Dax, vous allez à Béziers, c'est des sources de revenus qui sont non négligeables.
C'est économie, tradition, c'est légalisé, et qui fixe aujourd'hui les spectacles qui sont de bon goût auxquels les ministres ont le droit d'aller et ceux qui ne sont pas de bon goût, parce que c'est aussi ça la question que ben, peut se poser. Étienne Girard, vous n'avez pas entendu depuis un petit moment.
Eh bien, c'est le législateur. Et sûr. Aujourd'hui,
enfin, alors, en l'occurrence, il y a pas de débat. Alors, c'est
bah oui, il y a pas de débat. Légalement, il y a pas de débat.
Mais ce qui fixe, c'est le périmètre sur lequel on est élu. Vous avez qu'à voir la réaction de la députée Républicain en Marche du Gard, qui est pas du tout, qui est sur une opposition quasi pro corrida, parce qu'elle est élue dans ce, périmètre. Ou voilà, j'allais presque dire que c'est ça qui va déterminer peu ou prou quelles sont les positions qui sont prises par les uns par les autres.
Mais voilà, parce qu'il y a cette question. Là quand même, moi, qui m'interpellait, c'est vous avez des défenseurs de la cause animale qui vont du coup pointer du doigt finalement la présence de ministres, ils avaient tout à fait le droit d'y aller. Alors c'était peut-être pas habile politiquement, mais enfin
si on réfléchit vraiment analytiquement et cyniquement ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture, c'est pas si malhabile politiquement. Alors d'abord, il est aussi ministre de l'agriculture.
L'agriculture, c'est le monde de la tradition aussi. C'est la ruralité, c'est la tradition.
C'est pas la tradition, mais en tout cas, on emmène l'animal à l'abattoir parce que on nourrit les Français. Donc c'est pas exactement les mêmes intérêts. D'ailleurs, vous l'avez relevé, c'est un peu antinomique d'être à la fois ministre de l'agriculture et du bien-être animal. C'est comme si on pouvait être ministre des armées et ministre des droits de l'homme. Ouais, y a peut-être quelque chose sur le
sujet sur lequel vous pensez qu'il aurait mieux fait d'y aller ou pas y aller.
Didier Guillaume, il veut être candidat au municipal à Biarritz. Et c'est pour ça qu'il est au spectacle de corrida.
Il a longtemps été élu de la Drôme, d'ailleurs. On ne sait pas comment il veut se retrouver à Biarritz.
Mais
c'est assez surréaliste.
Il habite depuis quelques années à Biarritz et il réfléchit à être candidat au municipal à Biarritz. Et à Biarritz, je peux vous dire qu'on n'a pas la même position qu'à Europe Écologie Les Verts.
Ou à la Fondation Brigitte Bardot.
Donc, dans l'électorat qui vise, on n'est pas du tout dérangé de voir un ministre à la corrida. Parce que ça ne fait pas du tout consensus, cette idée que la corrida, c'est un spectacle de torture. Pour toute une partie de la population française, c'est un art.
C'est un spectacle et c'est un art.
Oui, c'est un élément culturel important.
Il nous reste quelques secondes au moment de vous dire au revoir et de vous remercier. Je voulais qu'on parle des unes. Étienne Gérard, la une de Marianne cette semaine.
Oui, justement, on parlait d'agriculteurs. Bien manger ne coûte pas cher, mal manger coûte très cher. On explique comment bien manger au supermarché.
Très bien, Frédéric. Alors
on ouvre demain la Marseillaise avec une lettre au président Macron pour sensibiliser sur la question des migrants en Méditerranée qui se noient, des bateaux qui viennent les secourir. Et donc on a ouvert un hashtag qui s'appelle Europe ouvre tes ports, voilà. Et donc voilà, on va mener la bataille. La Marseillaise s'engage sur ces questions très fortement des migrants en Méditerranée.
Puisqu'Arnaud Benedetti, vous êtes aussi rédacteur en chef d'une publication La Revue Politique et Parlementaire.
Le dernier numéro qui vient de paraître de la Revue Politique et Parlementaire est consacrée à l'Europe, l'Union Européenne et l'Europe, un couple impossible. C'est une question que l'on pose.
Merci à vous trois d'avoir participé aux informés qui reviennent lundi, bien sûr, à 20h.